Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Daniel Lantaigne.
Et bienvenue à l'émission Les Héros Anonymes pour cette deuxième partie-là. Et pour les gens qui sont habitués au Canal M, vous allez vous demander, est-ce que j'écoute Regards sur l'itinérance ou Les Héros Anonymes? Je vais vous dire un peu des deux pour la prochaine demi-heure. J'ai le plaisir de recevoir en studio France Labelle, une habituée à Canal M, qui est directrice générale et cofondatrice du Refuge des jeunes. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là.
Mais ça fait plaisir.
Merci. Quand je pense au Refuge, on est peut-être plus qu'une personne à penser au Refuge. On pense au show du Refuge, mais qui n'est qu'un élément qui vous permet, un, d'avoir de la visibilité, puis évidemment de financer ce que vous avez à financer. Mais la première association, on dirait que c'est le fameux show.
Oui.
Et évidemment aussi, ben, Dan Bigra, qui l'a fait pendant un bon bout de temps.
Hein? Oui, pendant 32 ans.
Quand même. Le Refuge des jeunes, c'est un service qui m'apparaît d'une évidence même, mais on réalise que des fois, ben, dans le domaine, dans le secteur, puis dans la communauté, c'est pas toujours clair pour tout le monde. Mm-hmm. Comment le Refuge a su, à travers ces années-là, rester distinctif puis répondre à une offre bien précise dans tout ce grand écosystème-là rattaché aux personnes en situation d'itinérance?
Nous, on n'a pas eu tellement le souci de rester distinctif, mais bien, à l'instar des organismes communautaires, de répondre aux besoins. Et les besoins, donc le Refuge a été fondé, cofondé en 1989. Donc, à ce moment-là, on avait... quand je dis « on », un comité d'intervenants, intervenantes dont j'étais, on avait constaté qu'il y avait des jeunes qui se retrouvaient à la rue pour toutes sortes de raisons. Alors, de ce constat-là est partie l'idée d'ouvrir un accueil d'urgence pour pouvoir les accueillir, en posant pas de conditions dès la première rencontre. Ouais. Là. Et puis, si je reviens à la question de la distinction, bien, c'est un accueil d'urgence spécifiquement pour les jeunes hommes de 17 à 26 ans. Et donc, on occupe un groupe d'âge spécifique, mais il reste quand même que d'autres organismes voués à l'accueil des jeunes. Il y a des organismes qui accueillent des mineurs, il y a des maisons d'hébergement. Donc, on fait partie d'un grand ensemble, mais nous, dédiés spécifiquement à l'urgence, à la première ligne, comme on dit dans le jargon. Et on fait aussi de la deuxième ligne pour rester dans le jargon,
oui.
C'est-à-dire qu'au moment où les jeunes vivent une certaine stabilité, alors, donc, on peut leur proposer des logements sociaux avec soutien communautaire.
Bien, je me posais la question en regardant la tranche d'âge. Est-ce que l'objectif, c'est de s'assurer que ces jeunes-là, ben, s'ancrent pas un peu dans l'itinérance, puis d'essayer que ça ne devienne pas, j'ai goût de dire, c'est des mauvais mots que je vais utiliser, mais tu sais, que ça ne devienne pas comme leur trajectoire de vie bien encadrée, mais leur offrir peut-être ces opportunités-là ou ces lumières-là, alors que peut-être c'est sont au tout début de leur situation d'itinérance.
Oui, nous, notre vocation, c'est d'accueillir, d'offrir, d'accompagner et puis de prévenir le plus possible. Plus on intervient tôt, mieux la situation peut évoluer. Par contre, on n'a pas de pouvoir sur la suite des choses
non.
ou de contrôle. Alors, bien sûr, on ne souhaite pas qu'ils se retrouvent ancrés dans l'itinérance, mais il y a une petite... Prenons un bassin de 500 jeunes hommes différents par année. Il y a un petit noyau qui vont vivre une instabilité récurrente, qu'on va voir se promener, qui vont revenir au fil des ans. Des jeunes qui présentent de grandes, grandes difficultés, qui sont multiples et complexes. Alors, mais on va les accompagner dans leur parcours. Maintenant, l'itinérance, la plupart du temps, c'est un moment dans une vie. Il y a eu un avant, il y aura un après. Mais nous, on est vraiment dans les moments où ça va mal. On est dans l'urgence. On est sans logement. On peut arriver des centres de réadaptation, ça te fait mettre dehors de la famille, arriver d'un autre pays, un pays en guerre. Donc, les situations sont très différentes. C'est sûr qu'à un moment ou à un autre, on va trouver des traits communs, pauvreté, sans revenus. Bon, alors, c'est chaque jeune qui entre au refuge va faire l'objet d'une attention particulière.
Oui, effectivement. On peut pas être dans l'intervention de masse. Hein. Chacun a sa trajectoire de vie, son
absolument.
Histoire, son bagage.
Oui, absolument.
J'ai l'impression que les gens, je vais généraliser, les gens ont découvert qu'il y avait de l'itinérance pendant la pandémie. Comme si, à l'époque, il y en avait un peu à certains coins de rue. Ça faisait partie du bruit urbain ambiant d'une certaine façon, mais là, on a eu le visage de l'itinérance durant la pandémie. On a vu avec l'hôtel à Place du Puy, tout ça, puis bon, la situation dans le village. Est-ce que, pour vous, qui avez quand même quelques années en arrière de la cravate dans le domaine, est-ce que le visage de l'itinérance a changé?
Oui.
Est-ce qu'on est rendu où on est peut-être des fois à un seul épisode dans notre vie où on pourrait tomber en situation d'itinérance plus facilement qu'avant? Bon, on pouvait penser que c'était vraiment une suite de beaucoup d'accidents de parcours de vie ou pas nécessairement des accidents, mais qu'aujourd'hui, on pourrait tous avoir quelqu'un ou soi-même qui pourrait, à qui ça pourrait arriver. Est-ce qu'on est là? Est-ce que mon regard externe est flou? Mais j'ai surtout votre regard que j'ai goût d'entendre parce que vous en avez long à dire.
Oui, non, vous n'êtes pas trop flou.
Non, c'est pas
non, non, non.
Bon, je m'en viens pas.
Moi, j'ai posé pied dans le milieu de l'itinérance en 1986. Alors, la situation n'était pas la même. Il y avait des personnes en situation d'itinérance. Vous avez évoqué la pandémie, mais la pandémie, c'était assourdissant, le vide, l'absence. Les seules personnes qu'on voyait dans l'espace urbain, il est vrai, c'est des personnes qui étaient sans logement. Et donc, ça nous est apparu de façon beaucoup plus évidente à ce moment-là, mais il était là avant.
Oui.
Oui, le visage a changé parce que maintenant, on a vous avez vu dans le dernier dénombrement, on évoquait une augmentation, on disait 44% d'augmentation. Dans les faits, c'est beaucoup plus que ça. On dit 5000 personnes à Montréal, mais c'est beaucoup plus parce que toute l'itinérance invisible, puis ça, c'est une photo d'un soir, donc beaucoup plus les personnes visibles. Donc, c'est un indicateur. Oui, les visages ont changé. Il y a des personnes qui ont vieilli dans la rue faute de ressources, d'encadrement ou à cause de la nature de leurs difficultés d'accès aux services, tout ça. Il y a des femmes maintenant. Il y a des femmes qui vieillissent dans la rue, puis il y a des femmes qui... prenons par exemple une dame qui perd son conjoint, est à faible revenu, vit une dépression, est incapable de payer son logement ou est évincée. Donc, un jour, elle était locataire et mariée. Le lendemain, elle est veuve et évincée. Et elle se retrouve dans une maison d'hébergement pour femmes sans domicile. Donc, c'est des nouveaux visages. On a parlé beaucoup des nouveaux arrivants qui ne sont pas pris en charge par le réseau gouvernemental, les programmes d'aide aux migrants et immigrants, qui sont eux-mêmes débordés. Donc, on les retrouve. Alors, De l'aéroport, il n'y a qu'un pas à franchir pour arriver dans un refuge. Nouveaux visages, augmentation, crise du logement, on le répète ad nauseam, mais c'est extrêmement présent. Les gens n'arrivent plus à se loger.
Vraiment. Et on dirait que l'itinérance, les personnes en situation d'itinérance, je vous dis, on dirait que l'itinérance ne fait pas de préférence, on peut plus avoir juste un portrait de « Ah, ça représente une personne en situation d'itinérance, c'est son parcours de vie. » On dirait qu'il n'y a pas de discrimination face à l'itinérance. Tout le monde peut en être. Puis vous parliez, entre autres, là, des personnes qui arrivent, qui sont issues de l'immigration.
Oui.
Je voyais dans votre dernier rapport annuel, 45% des jeunes accueillis sont issus de l'immigration.
Absolument.
Donc ça aussi, ça doit... Bien, c'est sûr que ça change le visage de l'itinérance, mais ça met une pression parce que c'est pas comme si on avait tout réglé la question. Fait que ça rajoute, j'imagine, un stress, une pression sur
tous
votre organisation.
Tous nos systèmes sont défaillants actuellement.
Oui.
L'école, les systèmes de la santé, les systèmes d'accueil des personnes, le logement. Donc, il est vrai qu'on traverse une crise très, très importante actuellement. Je dirais l'une des pires que j'ai traversées depuis 1986, à l'exception de la pandémie. Maintenant... les groupes communautaires sont sous pression, absolument. On est habitué de travailler sous pression, d'être aussi le déversoir du réseau public, mais on a aussi une vocation d'accueil et une vocation humanitaire. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on répond, on accueille, on répond aux services, puis toujours dans un esprit d'accueil et dans le respect des droits. Toutes les personnes ont le droit d'être accueillies, de vivre dans la dignité. Ils ont le droit d'avoir accès à un logement, à des services. Mais là, oui, il y a une pression sur tous les systèmes. Ça, c'est bien, bien certain. On le dit avec moins de moyens, avec nous aussi, il y a des difficultés de recrutement aussi.
Mais oui, la pénurie de main-d'œuvre n'a pas épargné personne.
Bien sûr. Alors oui, tout le monde est sous pression, mais en même temps, moi, je me dis, je fais ces constats-là, mais je ne veux pas être toujours dans l'extrême, l'apocalypse et l'impossible. Malgré tout ça, il y a du possible.
Ouais.
Et on est des milliers de travailleurs, travailleuses communautaires à Montréal qui rendons possible certaines choses. Ça, c'est bien important.
Oui, il faut garder cet œil-là sur le possible.
Bien sûr.
Cette semaine, commençait à faire un peu plus froid, un peu plus de neige. On a toujours l'impression que les refuges s'organisent bien, mais que le gouvernement est toujours pris de court à chaque année, que c'est pas qu'il y a un hiver qui s'en vient, puis qu'il y a des gens qui sont dans la rue pendant l'hiver. C'est comme si on avait fait un reset, puis on le savait pas. L'hiver qui s'en vient, qui s'installe bien, pour vous, est-ce que c'est après toutes ces années-là au refuge, est-ce que c'est juste un cycle, un moment avec un peu plus de pression, ou c'est un stress vu le nombre certainement croissant, là, puis entre autres des jeunes aussi?
Oui, c'est un stress accru parce qu'il n'y a pas d'annonce de création de nouvelles places actuellement. On a 1600 places d'urgence à Montréal, puis on dit qu'il y a 5000 personnes. Il n'y en a pas. Il y a quelques semaines, on avait des besoins aussi de places parce qu'on était en surnombre au refuge. Puis tout ce qu'on pouvait offrir, c'est une image forte, il restait une chaise. Donc, il n'y a pas d'annonce de nouvelles places. Autour du refuge, nous, on est sur Sainte-Catherine, au coin Papineau. Il y a des campements, là. Il y a des gens près du pont qui sont là. Il y a des tentes. Sur mon chemin, je vois des personnes qui sont dans des tentes. Alors, puis, on dit, on ne peut pas camper. Alors, où voulez-vous qu'ils aillent?
Ben, c'est ça, avec le nombre de lits qu'il y a.
Voilà. Et puis, il y a l'urgence. Donc, on veut plus que des places d'urgence. Puis là, il va y avoir des annonces, là, à la va-vite, là.
C'est sûr, on va ouvrir un ancien hôpital fermé quelque part, on va mettre des lits de camp, puis on va réagir.
Exact.
Mais en même temps.
Puis là, il y a eu des rencontres. Donc, mon coordonnateur était à cette rencontre. Et là, on apprend qu'il n'y a pas de nouvelle place. Bravo. Alors, il est vrai que ça génère de la colère. La mienne et de la part des intervenants aussi communautaires.
J'en doute pas. Pour travailler avec différents refuges ou organismes là, qui sont en lien avec l'itinérance, on sent que les gens ont... tout le monde, on est tous des humains, puis des fois, ça demande beaucoup, beaucoup de résilience quand on voit ce qui se passe, mais il y a une limite à puiser dans notre résilience collective.
Exact.
Si vous voulez bien, France Labelle, on va prendre une courte pause. On va poursuivre tout ça dans quelques instants. On est avec France Labelle, directrice générale et cofondatrice du Refuge des jeunes. Et vous êtes de retour à l'émission Les héros anonymes. Un grand plaisir de parler avec France Labelle, que je vous invite d'ailleurs à écouter à d'autres occasions qu'en ce moment. Évidemment, finissez l'émission avec nous, vous comprendrez bien. Mais écoutez-la également à l'émission Regard sur l'itinérance. France Labelle, vous avez tombé deux pieds dans ce milieu-là, ce milieu de l'itinérance. Mais vous ne baissez pas les bras, clairement. D'ailleurs, il y a une citation que j'ai retrouvée dans un dossier extraordinaire que Catherine m'a faite. « Les arbres nous apprennent la patience, ne baissent pas les bras à la première tempête venue.
Ouais. »
Ça vous représente, ça?
Absolument. Totalement.
J'ai pas de misère à le croire. Puis, pour donner un visage à l'itinérance, pour partager ces histoires-là, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Le refuge des jeunes de Montréal » qui est paru aux éditions Urtubise. J'ai le goût, si ça vous tente, de vous entendre lire vos propres mots à travers une histoire de votre livre.
Puis mon livre s'appelle aussi « 30 ans en pays d'itinérance ou la douleur de la soie » parce que j'ai aussi voulu parler de la douleur, mais aussi de la beauté.
Wow.
Alors voilà, le passage s'appelle « Une journée ordinaire ». C'est le premier du mois, le jour du chèque. Le fameux chèque qu'on attend avec impatience, fébrilité et crainte anticipée. Il y aura 669 maigres de dollars, toute une manne. Tu l'utiliseras pour payer tes dettes de drogue à ton dealer et ainsi éviter de te faire battre. Tu avais eu de sérieux avertissements. Tu t'achèteras un nouveau téléphone cellulaire, tu iras au restaurant et tu rachèteras de la drogue à ton dealer. Tu te prendras une chambre dans un hôtel et tu y amèneras une fille, comme tu dis. En moins de 24 heures, il ne te restera plus rien. Pourtant, lorsque je t'ai croisé rue Sainte-Catherine en venant travailler au refuge, tu m'as dit, C'est le jour où je me prends un appart, une chambre en fait. J'ai pas mes ID, mes OREF, ils vont m'endosser mon chèque, puis je vais pouvoir le changer. Dans les faits, tu ne t'es jamais rendu à l'appartement en question pour payer le concierge. Ça sentait ce matin rue Sainte-Catherine lorsque je m'approchais du refuge. C'était la misère. Madame la misère, écoutez le tumulte qui monte des bas-fonds, chantait Léo Ferré. Le tumulte ici s'entend difficilement, d'autant qu'il nourrit tous les préjugés habituels. C'est des toxicos, des junkies, j'ai même entendu des déchets de la société. Ce soir, ce sera plus calme au refuge. Il y aura moins de jeunes. Mais demain et après-demain, qu'arrivera-t-il? Après quelques nuits sans sommeil, sous une apparence de fête, celle qui est insidieuse, corrosive, qui gèle et tue parfois, certains reviendront épuisés, défaits et honteux peut-être. Madame la misère, qu'est-ce que tu leur fais? Lâche ton étreinte. Demain, nous reprendrons la conversation. Tu as très mal aux pieds d'avoir trop marché. Tu es épuisé de la fête et de ta vie. Tu es vide jusqu'au prochain chèque. Tu es déjà endetté. Tu me regardes te regarder avec tristesse. Mon seul remède, c'est de te proposer un bain de pied et du repos. Mon seul remède, c'est de prendre soin de toi. Un jour, tu as quitté le refuge et Montréal. Depuis, il semble que tu vas mieux. Tu nous as envoyé une photo avec ton enfant. Maintenant, tu voudrais bien aider les autres, ceux qui sont encore là, parce que toi, tu sais ce que c'est la misère qui fait t'en marcher.
Wow! C'est, ça met un visage sur des histoires. C'est, je trouve ça fascinant. Alors, je vous invite, là, si vous avez comme moi accroché à cette histoire-là, ben, allez vous procurer ce livre-là, fort intéressant, qui met un beau visage sur la situation. Il y a des visages qui sont moins... reluisant. Il y a un article dans Le Devoir qui est sorti cette semaine qui parlait des itinérants invisibles, même dans la mort.
Mm-hmm.
Le Devoir a fait un recensement maison, disons, d'une quarantaine de décès de personnes itinérantes qui ont perdu la vie en 2022. Mais évidemment, ce qu'on réalise, c'est que c'est pas comptabilisé, c'est pas chiffré. Il n'y a pas de registre au Québec. Là, il y en a ailleurs au Canada. Je vais vous avouer que où je travaille, qui n'est pas très loin de la station, j'en croise tous les jours dans leur sleeping bag, dans la ruelle. J'ai toujours peur, pas pour ma sécurité, ça va, mais j'ai toujours peur qu'un jour, on va juste penser que la personne est en train de faire une sieste, puis que finalement, elle est dans sa dernière sieste. Là.
C'est possible.
Avec l'hiver qui s'en vient, c'est un stress collectif qu'on devrait tous avoir. Si on ne l'a pas, je pense qu'il nous manque quelque chose. Le visage d'itinérance, on en a parlé, il a changé. J'ai l'impression qu'il y a plus d'enjeux de santé mentale qu'il y en avait par le passé, mais de manière collective, pas juste dans l'itinérance, là, comme société. Est-ce que ça se reflète aussi dans vos interventions? Est-ce que vous devez conjuguer avec des gens qui perdent peut-être des fois le contact avec la réalité?
Oui, évidemment, quand on parle des visages de l'itinérance, c'est les personnes visibles, ça, puis on est dans l'extrême, et c'est ce qui nous pose de grands défis, puis ça nous fait vivre beaucoup d'impuissance à nous comme... aux gens qui les côtoient là, sur la route. Alors, ça, c'est une partie. Puis, il y a beaucoup de monde qu'on ne voit pas, qui sont ça et là, mais qui, eux aussi, vivent des situations difficiles. Mais oui, les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale sont beaucoup plus présentes dans nos ressources. On a parlé aussi beaucoup de la crise des opioïdes, maintenant, qui est largement surpassée par des consommations de substances telles que le crack, la méthamphétamine, donc des drogues chimiques coupées avec toutes sortes de cochonneries et qui créent beaucoup de psychoses toxiques aussi, de telle sorte qu'on fait face à davantage de personnes jeunes et moins jeunes qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale graves. Tout à l'heure, on a parlé de l'immigration. Il y a des personnes qui nous arrivent de pays en guerre et qui ont vécu des traumatismes très importants, alors qu'ils sont souvent en choc post-traumatique, mais c'est souvent masqué, ça aussi, par les impératifs de survie. Alors oui, on est confronté à davantage d'impuissance, puis il arrive que des personnes qui sont tellement désorganisées qu'on ne peut pas les accueillir dans nos... dans nos ressources. Alors, bon, heureusement, il y a encore des travailleurs de terrain, travailleurs de rue, travailleurs de milieu qui vont aller à la rencontre de ces personnes-là, peut-être les plus en crise, ouais. Tout ça. Mais c'est insuffisant, là. Puis on a un problème d'accessibilité aux services, hein, pour la population en général. Puis même s'il y a certains programmes, là, très, très intéressants, qui accueillent des personnes en situation d'itinérance, mais c'est pas assez. Ben c'est insuffisant.
Je vais vous poser la question bien naïvement. Mm-hmm. On en croise toutes des personnes en situation d'itinérance. Si on n'en croise pas, c'est parce qu'on vit dans le fond d'une forêt, puis même à ça.
Ou dans certains quartiers aisés.
Ben exact, aussi. Bien sûr. Je me demande encore aujourd'hui, puis c'est drôle, mon fils, à chaque fois qu'on croise une personne en situation d'itinérance, il me dit « As-tu de l'argent sur toi, papa? Mm-hmm. » Il n'y a peut-être pas une bonne réponse, mais qu'est-ce qu'on fait? Si j'ai de l'argent, est-ce que je suis mieux de la donner à la personne en situation d'itinérance? Est-ce que je suis mieux de la donner au refuge? Est-ce que je suis mieux de faire les deux? Mm. On ne sait jamais, parce qu'évidemment, il y a toujours le gros préjugé, ben oui, je vais lui donner de l'argent, il va s'acheter des cigarettes, ouais. Il va s'acheter de la drogue avec ça. Puis peut-être que ça va être ça, parce qu'évidemment, on ne sort pas de la drogue du jour au lendemain. Là.
Non, c'est des personnes qui sont... Ben oui, il y a une dépendance ça, oui. Très forte, ils en ont besoin.
Exact. Donc,
oui.
comment on peut aider ouais. Quand on sent que... Ben, peut-être qu'on ne va pas tout à fait aider, mais qu'on veut vraiment aider.
Mm-hmm. Ben, ça dépend de à partir de quelle lorgnette on regarde, puis quelle est notre position. Moi, je ne peux pas dire aux gens quoi faire, mais je peux dire à partir du moment où moi je fais un don, ça ne me regarde pas ce que la personne en fait. De ce... Et vous avez raison, possiblement, et c'est tout vrai, pour manger, pour peut-être appeler les cigarettes. Ben, tout le monde qui est fumeur savent très bien que la nicotine,
ben oui,
et c'est une dépendance très forte. Alors, donc, il y en a qui vont aider une organisation, il y en a qui vont faire du bénévolat, il y en a qui vont apporter des vêtements, il y en a qui donnent sur la rue, il y en a qui saluent. Et donc, on y va avec ce qui nous rend confortable, tout le monde peut aider, mais de différentes manières. Et puis, si on met tous ces efforts-là ensemble, on va arriver pas à régler l'itinérance demain, mais la chose la plus importante, c'est de ne pas ignorer, c'est à tout le moins de répondre quand quelqu'un s'adresse à nous, de sourire. Ce qui leur fait le plus mal, c'est pas qu'on ait dit non à la demande, c'est qu'on les ignore parce que si je les ignore, je nie carrément leur existence. Ça, c'est extrêmement méprisant et dommageable.
Vraiment, ça me rappelle une chanson de Phil Collins que j'écoutais quand j'étais plus jeune, qui parle de l'itinérance et des personnes qui continuent de marcher sans détourner en détournant pas le regard, comme s'ils n'avaient pas vu, ils n'avaient pas entendu, ça ne les regardait pas. Mais ça nous regarde parce que clairement, comme société, on a échoué à quelques égards si on doit composer avec cette situation-là.
Je comprends le malaise. Là. Oui. Moi, je suis dans ce milieu-là depuis... j'ose plus compter. Je comprends le malaise. Ouais. Moi aussi, je le vis à l'occasion, le malaise. C'est certain, mais il faut rester humain. Il ne faut pas fuir.
Non.
C'est pas une solution.
Totalement. Mm. Totalement. Je suis à la même place que vous. Le refuge, on en a parlé évidemment un peu. Hein. Ça va de soi, c'est des jeunes hommes qui sont accueillis chaque jour.
Jour, soir, nuit.
Jour, soir, mm-hmm. nuit. Mm-hmm. Exactement, vous avez 45 lits à peu près,
oui,
si je ne me trompe pas. Vous avez des logements sociaux aussi, ben évidemment, quand il y a une stabilité qui s'installe.
On a 22 logements sociaux pour le moment. C'est peu hein, quand on regarde les besoins, mais on a des projets de développement. Alors,
faut pas que les gens fassent l'équation, disent, bon, on prend un itinérant, on le met dans un logement social, la question est réglée, parce que de toute façon, c'est pas tout le monde qui est prêt, pas tout le monde qui veut.
Puis c'est difficile d'habiter. Oui. Quand tu n'as jamais habité, il y en a qui ne couchent pas dans leur lit le premier soir. Il y a un jeune qui me disait, il est dans 1,5, puis il dit, je me sens tellement vide, il y a de l'écho dans mon appartement.
Dans le 1,5.
Exact.
Wow.
Ouais. Puis il dit, là, j'ai jamais habité, maintenant, il faut que je m'invente une vie, là.
Ouais.
C'est pas évident, ça, là.
Non, c'est pas la seule solution, puis c'est pas réglé une fois qu'on a stabilisé les gens.
Ça prend de l'accompagnement pour beaucoup de personnes.
Vraiment. Ouais. Mais vous faites un travail formidable, personnellement, collectivement. Vous avez toute une équipe, évidemment, avec
Absolument,
vous, Refuge des jeunes.
Une équipe formidable.
Je trouve ce travail-là extraordinaire, parce qu'il doit... Il faut calculer, il faut voir les petites victoires à chaque jour. Il faut s'accrocher à ces petites victoires-là.
Oui.
Très certainement, vous faites ça de façon extraordinaire.
La rencontre d'humains blessés, c'est une victoire.
Ben oui, certainement. Exact. De créer ces liens de confiance-là. Si vous avez été interpellé, vous qui nous écoutez, ben, j'ai le goût de vous inviter à aller visiter le site refugedesjeunes.org. Mm-hmm. J'aurais pu vous sortir 10 000 statistiques là, pour étourdir tout le monde, mais il y a un rapport annuel qui est extraordinaire, qui démontre clairement l'impact que vous faites auprès de ces jeunes-là et peut-être l'impact que vous aurez sur leur trajectoire de vie. Mais tout ça se fait une vie à la fois et selon chaque personne.
Oui.
C'est un grand plaisir aussi. Ben, écoutez, je vous ai donné le site, lerefugedesjeunes.org. Vous pouvez également appeler si vous voulez voir comment vous pouvez aider l'organisme. Là, évidemment, financièrement, ça va de soi, mais si vous voulez donner un coup de main, vous pouvez appeler au 514-849-4221 et il y aura quelqu'un au bout de la ligne pour répondre à vos besoins. C'est un grand plaisir de vous recevoir.
Partager, ça passe vite. Hein?
Ça passe très, très vite, cette demi-heure-là,
oui.
En grande compagnie, certainement. Et donc, merci à vous, à nos précieux invités à chaque semaine. Mathieu Tessier à la mise en onde, Catherine Bourderon à la recherche.